France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors avec ces législatives, nous n'avons pas eu le temps de rendre un hommage comme il se doit à deux piliers de notre société disparus ce week-end. Alors déjà, Adam West, hein, vous savez, c'est le comédien qui jouait dans la série Batman, voilà, la série des années 60, qui avec un générique endiablé et des pifs et des pafs apparaissait à l'écran, qui a marqué l'histoire de la télé. Et deuxième hommage au célèbre Sam Panopoulos. Alors Sam Panopoulos, il s'est éteint samedi à 86 ans, il était l'inventeur de la pizza hawaïenne. Voilà l'une des grandes énigmes de l'humanité, à savoir mélanger fromage fondu et ananas. Pourquoi ? Eh bien, nous ne le saurons jamais. Voilà, hommage à toi Sam en tout cas. Et eux, c'est affamé d'actualité qu'ils ont rejoint les informés de France Info. Et ce soir, nous recevons Judith Vintraube du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Également l'entrepreneur et soutien d'Emmanuel Macron, Xavier Alberti, bonsoir.
Bonsoir.
Le sociologue Nicolas Framont, bonsoir.
Bonsoir.
Le numéro de dernière revue Frustration pour les riches, Macron président, la fête continue. Voilà, on va en parler sûrement. Et également Jonathan Boucher-Petersen de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, nous reviendrons encore un peu sur ce premier tour, bien sûr, des législatives. On évoquera la visite de Theresa May de Société Civile CSP+. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, hier soir, dans les informés de France Info, nous avions mis à disposition de François Bayrou un téléphone, voilà, lui permettant de réagir à chaque instant quand il le souhaite, car le ministre de la Justice est très attentif à ce qui se passe sur nos antennes. En effet, la semaine dernière, il n'a pas hésité à appeler Radio France et France Info, car il s'inquiétait de la pression des journalistes enquêtant sur les assistants parlementaires Modem au Parlement européen. Alors, apparemment, François Bayrou a succombé à la mode du vintage, puisque lui-même a souvent dénoncé le manque d'exemplarité de la classe politique et des pratiques anciennes. Le garde des Sceaux a tenu à préciser que cet appel était passé en tant que citoyen. Ça n'a pas empêché le Premier ministre de le recadrer ce matin, Édouard Philippe.
Quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen. J'ai indiqué à l'ensemble de mes ministres qu'il fallait systématiquement penser à cette question de l'exemplarité, pas seulement au titre des fonctions qu'on occupe, mais parce que justement, lorsque vous êtes ministre, vos actes, vos propos, votre façon de réagir parfaitement humaine, n'est jamais interprétée par vous-même et par les Français comme simplement humaine, mais toujours dans le cadre de ses fonctions.
Voilà, ça c'était Édouard Philippe ce matin sur France Info, et donc tout le monde a bien compris le message, tout le monde sauf François Bayrou, qui a réagi cet après-midi, on l'écoute.
Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire à des Français, des responsables, qu'ils soient politiques, qu'ils soient journalistiques, qu'il soit médiatique. Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, je le dirai.
Voilà, François Bayrou, cet après-midi. Alors, Nicolas Framont, c'est quoi ? C'est certaines pratiques qui ont du mal à passer ?
Bah oui, apparemment, on a encore des réflexes de quelqu'un qui vient d'entrer en fonction et qui ne comprend pas que ça nécessite de faire abstraction de beaucoup de choses, de ses sentiments en particulier, et aussi d'être attentif à la séparation des pouvoirs, qui est un de nos principes forts. Et là, on a un exemple d'une atteinte à cette séparation-là.
Judith Vintraube, François Bayrou, là, vient de dire, finalement, malgré ce que dit Édouard Philippe, c'est pas grave, je continuerai.
Ouais, je crois que François Bayrou est tout à fait persuadé qu'il est l'artisan de la victoire d'Emmanuel Macron, parce que quand ils ont noué un accord, quand François Bayrou a apporté son soutien au candidat d'En Marche, il traversait une passe un petit peu difficile. Rappelez-vous, c'était en janvier, il avait fait une sortie sur la colonisation, crime contre l'humanité, qui avait été diversement appréciée. Il stagnait un petit peu dans les sondages sur les intentions de vote. Et l'effet magique de François Bayrou a permis qu'il soit élu. Malheureusement, je crains que la réalité politique, surtout à l'aune des législatives qui sont en train de se dérouler, soit un peu différente. Il y a quasiment aucun risque qu'Emmanuel Macron se retrouve à avoir besoin des députés Modem pour constituer une majorité absolue à 289 sièges, puisqu'il est donné à plus de 400. Donc François Bayrou, il a été reine d'un jour et il ne s'en aperçoit pas.
Il s'en remet pas, c'est ça, Jonathan Boucher-Petersen. Est-ce que c'est finalement c'est une véritable déconnexion, parce que Il appelle Radio France, mais il sait que ça va sortir, qu'on va en parler derrière. Mais
surtout, ce n'est pas la première fois. Enfin,
oui,
on se rappelle,
c'est un récidiviste. Oui.
Il a retweeté la défense que Marielle de Sarnez avait concoctée concernant une affaire d'assistant parlementaire au Parlement européen déjà. C'est là où il y avait eu donc, le changement d'identité de François Bayrou sur Twitter en l'espace d'une seconde. Il était passé de ministre de la Justice. Il s'était empressé de le préciser sur son compte Twitter, sûrement une fierté. Il était revenu simple maire de Pau. Aujourd'hui, il est simple citoyen. Voilà, je ne sais pas où ça va s'arrêter, cette dégringolade. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'au-delà de la. Enfin, je veux dire, effectivement, des pratiques du passé, il est très concrètement aujourd'hui le patron des parquets, et que c'est le parquet de Paris qui mène une enquête préliminaire sur la question du MoDem, assez directement, dont il était le président, dont il est la figure tutélaire, dont il a longtemps été même le seul poids lourd. Voilà, donc ça pose un vrai sujet. Il le traite quasiment avec une forme de dilettantisme, de légèreté, presque patelin, homme libre, je dis ce que je pense, j'ai des convictions. Là, il ne s'agit pas de convictions, il s'agit de quelqu'un qui est gêné dans le fonctionnement de sa vie politique, qui voit des journalistes se pencher sur des pratiques, peut-être d'un autre temps, qu'il appartiendra évidemment à la justice de caractériser. Mais voilà, on est dans l'interventionnisme d'un homme qui est en fonction garde des Sceaux, c'est pas rien, a priori, voir un poids lourd de nos institutions, qui appelle le service public pour lui dire « je n'aime pas vos façons d'enquêter ». Enfin, ça peut se justifier sûrement avec beaucoup de rhétorique, c'est absolument choquant.
Ouais, Xavier Alberti, c'est vrai que ça paraît quand même assez étonnant, parce que il y a eu une tribune ce soir qui est publiée dans différents journaux sur l'inquiétude par rapport à liberté de la presse avec Emmanuel Macron. On se souvient le vendredi 9 juin, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui avait annoncé avoir porté plainte contre X pour vol, violation du secret professionnel et recel à la suite de la publication deux jours avant dans Libération des documents portant sur la loi travail. Là, François Bayrou qui nous appelle. Alors, ça fait plaisir d'avoir de leurs nouvelles, mais en même temps, c'est un peu inquiétant, non ?
Pas confondre les erreurs qui peuvent être faites par les uns ou par les autres. Au moment d'une prise de fonction, dans une période un peu particulière, même si je ne balaye pas d'un revers de la main le fait que ça soit une erreur de la part de François Bayrou et le fait que la liberté de la presse puisse être en danger de ci ou de là. Quoi. Pour moi, il n'y a pas de sujet de cet ordre-là. En revanche, il y a effectivement un comportement qui n'est pas normal. Je pense que le Premier ministre a recadré sur le fond les choses. Ça serait bien, effectivement, que quelqu'un rappelle à François Bayrou qu'il n'a pas été élu président de la République.
J'espère que François Bayrou ne se sente pas absolument comptable de quoi que ce soit vis-à-vis d'Edouard Philippe, qui pour lui est un député de seconde zone, qui est arrivé Premier ministre un peu par hasard. En gros, il est dans une relation... J'ai vu que vous étiez un peu titillé sur Jupiter avant l'émission, donc il est dans une relation directe avec Zeus, on va varier. Mais voilà, c'est ça son enjeu. Donc, où il y a un recadrage, Macron fait savoir qu'il a parlé à François Bayrou, et François Bayrou prend acte, où on reste dans une espèce d'hypocrisie d'un enfant tyran qui s'appelle François Bayrou, qui est garde des Sceaux et qui sort du cadre.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonhomme.
Les salariés de GMS bloquent à nouveau le site de la souterraine dans la Creuse. Information de nos confrères de France Bleu. Ils dénoncent, je cite, la volonté évidente de l'État de bâcler le dossier. L'équipe anti-automobile est placée en redressement judiciaire depuis le mois de décembre. 277 emplois sont menacés. La prochaine audience au tribunal de commerce de Poitiers est prévue le 23 juin prochain. François Bayrou revendique sa liberté de ton. Le ministre de la Justice s'est plaint la semaine dernière auprès d'un responsable de Radio France d'une enquête sur des soupçons d'emploi fictif visant son parti, le MoDem. Il a été recadré ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe sur France Info. Et ce soir, le garde des Sceaux affirme que chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, il le dira. Les combats sont de plus en plus violents aux portes de la vieille ville de Raqqa en Syrie. Les djihadistes de l'organisation État islamique défendent avec acharnement l'entrée du cœur de leur capitale autoproclamée. Mines, tireurs embusqués et voitures suicides sont le lot quotidien des forces arabo-kurdes soutenues par les États-Unis et engagées dans l'opération. Plus d'un millier de policiers mobilisés pour assurer la sécurité au Stade de France ce soir pour le match amical France-Angleterre. Chiffre fourni par la préfecture de police de Paris. Emmanuel Macron et la Première ministre Theresa May, la Première ministre britannique, seront dans les tribunes. Des agents de déminage et un dispositif anti-drone est également engagé pour cette rencontre. Le coup d'envoi du match est à 21h.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info, nous parlons de ce recadrage Édouard Philippe envers son ministre de la Justice. Ministre de la Justice, François Bayrou, qui n'en a strictement rien à faire hein, de ce recadrage. À propos bien des petits coups de pression, voilà, du coup de téléphone de François Bayrou aux rédactions de Radio France. Alors, c'est vrai qu'à la base, quand même, Judith Vintraube, de tout ça, il y a quand même une enquête préliminaire hein, qui a été ouverte la semaine dernière par le parquet de Paris concernant les assistants parlementaires du MoDem. Est-ce que c'est quand même délicat pour la prochaine loi sur la moralisation de la vie politique, portée par François Bayrou, alors qu'il y a une enquête enquête ouverte sur son parti.
Ben, c'est extrêmement délicat. L'un des exemples de François Bayrou, c'est Georges Bidault, vous savez, qui avait pris la présidence du Conseil national de la Résistance après Jean Moulin. Et Georges Bidault disait « le meilleur moment pour dire non, c'est le premier ». Eh bien, Bayrou, voilà, il est entré en résistance au sein du gouvernement Macron, qui ne pense pourtant avoir contribué à élire. Le problème, c'est qu'effectivement, on est en train de discuter de la loi censée restaurer la confiance dans l'action publique. Je crois que c'est ça l'intitulé exact. Oui. Il est question de confiance, en tout cas.
Et surtout, c'est lui qui l'a voulu aussi.
C'est un credo majeur de François Bayrou, enfin, son identité politique.
Absolument, c'était un élément du deal, ça, et les circonscriptions qu'il a nouées avec Emmanuel Macron. Donc, c'est hautement problématique.
Nicolas Framont, pour vous aussi, c'est problématique. Ce ministre de la Justice, là, porte cette loi en
particulier. Évidemment, et d'une manière générale, il y a quelque chose qui me surprend dans l'univers de Macron, vous voyez, c'est que moi je m'attendais à avoir un libéral cohérent, c'est-à-dire à la fois attentif aux libertés économiques et, comme on dit souvent, aux libertés publiques. Et là, à travers l'attitude envers la presse quand même, des signes inquiétants qui ont été relevés par nombre de journalistes et qui font écho pour moi à la volonté de faire passer l'état d'urgence dans le droit commun, pour moi, on a des choses qui caractérisent une attitude autoritaire et qui n'est pas en rapport avec ce que je pouvais imaginer d'un libéral cohérent.
Oui, Xavier Alberti, quand vous entendez ça, justement, pour vous ?
Juste pour revenir sur la loi en tant que telle, la loi, tout le monde l'a saluée. Oui. Beaucoup de monde l'a saluée. Donc je comprends qu'on essaye de jeter le trouble sur la loi à travers celui qui la porte, mais le texte de loi qui va être présenté à l'Assemblée, il est bon. Le fait que le ministre de la Justice ait commis une erreur de communication ces jours-ci et qu'il puisse avoir à un moment donné des problèmes avec la justice, c'est quelque chose de totalement séparé. S'il y avait une quelconque mise en examen, par exemple, le président de la République et le Premier ministre prendraient immédiatement les mesures qui s'imposent. Oui. C'est pas le cas aujourd'hui, on n'en est pas là. Et encore une fois, le fait est que cette loi, elle est sur la table, elle va être présentée à l'Assemblée et elle est excellente.
J'admire la belle confiance de Xavier Alberti, qui n'est pas partagée par tout le monde dans La République En Marche. Je pense notamment à Jean-Louis Bourlange, politologue réputé, ancien eurodéputé.
Et du MoDem.
Qui est de nouveau très ami avec François Bayrou et qui n'a pas parlé du cas Bayrou, qui a parlé du cas Richard Ferrand en disant publiquement qu'il devrait démissionner dès lors qu'une enquête préliminaire est ouverte sur son cas. Donc ça commence à faire beaucoup.
Alors justement, Jonathan Boucher-Peterson, on se souvient, en pleine affaire Richard Ferrand, le Premier ministre avait dit « les électeurs jugeront ». Alors apparemment, au vu des résultats, Richard Ferrand comme Marielle de Sarnez, dont le nom apparaît dans l'affaire du MoDem, sont bien placés pour remporter leur siège dimanche prochain. C'est-à-dire que ça règle tout ?
Non, sauf ça, c'est pareil. On va sûrement dire que c'est une maladresse de communication. Moi, je trouve que c'est choquant en termes de principe, quoi. C'est-à-dire que c'est la jurisprudence Balkany. Pendant des années, il y a eu, on se souvient d'images dans certains documentaires du retour triomphant de Patrick Balkany lavé par les électeurs. Enfin, c'est deux choses qui sont très différentes. Et à la limite, il y a des peines d'inéligibilité qui sont prévues dans cette loi, justement, pour que les manquements à la probité publique empêchent, les électeurs de venir se substituer au juge. Et encore une fois, il faut dissocier les deux débats. La loi, elle est bonne. Et justement, parce qu'elle est bonne, est-ce qu'il faut qu'elle soit plombé par quelqu'un qui, effectivement, a servi dans une espèce de mécanique politique pour gagner l'élection et c'était bien légitime. Ce qui est un peu dommage avec François Bayrou, c'est que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un de ses credos forts. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'il a développé une pensée assez forte et exigeante, radicale. On peut même dire que si ce texte est bon, il y a des éléments sur lesquels il a poussé pour que, notamment la question du financement de la vie publique. Il y avait quelque chose de très vertueux dans sa posture et en même temps de très décalé. Il y a encore un article du Canard qui sort demain matin, qu'on a eu ce soir dans les rédactions, qui fait la suite de ce qui est déjà sorti dans Le Parisien, mais aujourd'hui dans du témoignage direct de gens qui étaient dans ce système du MoDem. L'honnêteté oblige à être aussi sévère avec Marine Le Pen qu'avec François Bayrou et le MoDem sur ces questions-là. C'est-à-dire, s'il y a système, s'il y a détournement d'argent public, ou en tout cas s'il y a détournement d'usage d'argent public, c'est-à-dire de l'argent européen pour des activités parisiennes partisanes, ça doit être pointé exactement de la même façon.
Oui, s'il y a. Xavier Alberti.
En l'occurrence, encore une fois, je pense que ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, c'est justement de remettre en place des landmarks claires, des bornes qui soient claires, en disant s'il y a mise en examen, il y aura sanction immédiate.
Pour le coup, les bornes du précédent quinquennat, elles étaient super claires. Demander à Bruno Leroux, demander à Thévenoud, demander à Cahuzac, demander à Benguigui, demander à.
Les bornes sont là. Il y aura quelque chose qui mettra en déséquilibre complet tel ou tel ministre, il sera il sera démissionné.
Est-ce que vous ne pensez pas, Xavier Alberti, quand même, que ce soit l'affaire Ferrand, aujourd'hui François Bayrou ou Mariette de Sarnez, ce sont ces fameux sparadraps qui peuvent coller après en permanence
qu'on puisse dire que c'est gênant, qu'on s'en passerait bien, que d'un point de vue moral ou que d'un point de vue éthique, ça puisse choquer un certain nombre de personnes. Il n'y a aucun sujet là-dessus, c'est pas ça que je dis. Dit qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une borne, il faut que cette borne elle soit claire. Si on commence à rentrer dans le sujet de ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas, il va falloir mettre en place des tribunaux d'éthique. Le sujet, c'est de dire, aujourd'hui et jusqu'à preuve du contraire, la mise en examen, c'est le juge de paix, on va dire, de la démission d'un ministre.
Mais quand on pose l'exemplarité, on va forcément...
Dès lors qu'il n'y a que, pour l'instant, des articles de presse... On ne peut pas s'arrêter à ça.
Et l'ouverture d'une enquête préliminaire.
Très bien, une ouverture d'enquête préliminaire. On a vu des candidats à la présidence de la République, même mis en examen, aller au bout de leur démarche.
Julien Trobet, après Nicolas Fraisse.
C'était très choquant.
Ce que les Français, les électeurs supportent encore moins que la fraude, le mensonge et l'escroquerie, c'est les donneurs de leçons qui se livrent à toutes ces pratiques-là. Donc attention au retour de bâton. Une fois de plus, on a quoi? On a un professeur de vertu dont les pratiques sont mises en cause. Alors certes, il n'est pas mis en examen, mais il y a ouverture d'une enquête préliminaire.
Nicolas Framont.
Oui, je pense qu'il faut faire attention à tout mettre sur le plan des qualités personnelles, de la morale personnelle. Ce qu'il nous faut, c'est des règles. Et les règles, c'est que quand il y a une procédure judiciaire, c'est cette procédure-là qui décide ce qu'il advient de la personne et pas le résultat d'un scrutin qui plus est avec un fort taux d'abstention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le vote pour Richard Ferrand? Est-ce que c'est un jury citoyen qui a acté de sa probité? Non, certainement pas. Donc maintenant, il va falloir arrêter de se reposer sur des figures tutélaires qui incarnent la morale, la probité, comme l'a été un temps Bayrou, et définir des règles. Et il faut vraiment attendre que cette loi, elle arrive et qu'elle définisse ses règles clairement. Et là, on pourra, en tant que citoyen, voir si ça nous convient ou pas. Mais qu'on arrête de nous parler d'individus et de leurs qualités personnelles.
Mais à part ça, je conçois que j'entends ce que vous dites. Moi, je trouve que faire démissionner un ministre dès lors qu'il est mis en examen, c'est déjà une atteinte à la présomption d'innocence. Hein, c'est la jurisprudence Balladur.
Qui souhaitait, dès qu'un ministre était mis en examen...
Qui a fait en sorte et qui a fait école. Maintenant, quand un ministre est mis en examen, il doit quitter le gouvernement. Je suis désolée, en termes de justice, c'est pas normal.
Mais c'est pour permettre à la procédure de se faire. C'est ça le problème. Si vous voulez avoir un ministre en exercice, ça peut être une forme de...
En général, la formule consacrée, c'est on va lui rendre sa liberté pour qu'il puisse assurer pleinement sa défense.
Allez, on va parler dans un instant de la droite et la gauche, hein, qui sont, on va dire, légèrement... en difficulté, on va dire ça, voilà, comme ça pour être poli. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Le ministre de l'Agriculture reconnaît ce soir que les prix du lait ne sont pas à un niveau suffisant. Les producteurs mobilisés un peu partout en France réclament une hausse des tarifs au litre. Ils veulent que soient couverts leurs coûts de production. Plusieurs actions et blocages à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Dans la Manche, en Mayenne, en Loire-Atlantique, dans la Sarthe et dans plusieurs départements de Bretagne, ils bloquent l'accès aux coopératives. Des représentants des producteurs de lait étaient reçus ce soir au ministère de l'Agriculture. Un nouveau revers pour le décret anti-immigration de Donald Trump. La Cour d'appel fédérale de San Francisco confirme le blocage du texte qui empêche, je vous le rappelle, les ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans de mettre le pied sur le territoire américain. L'administration Trump a saisi la Cour suprême sur ce décret. Grosse prise pour les Canaries nantais. Le FC Nantes s'offre Claudio Ranieri. L'Italien est le nouvel entraîneur du club. Il vient de signer un contrat de 2 ans et remplace donc Sergio Conceição sur le banc nantais. La vague de chaleur remonte vers le nord du pays. Météo France prévoit un épisode de forte chaleur en vallée du Rhône et dans la région grenobloise jusqu'à demain. Des températures extrêmement élevées dans le sud de la France, notamment le Vaucluse aujourd'hui. Pas moins de 37 à 38 degrés cet après-midi à Carpentras, 35 à 36 à Orange et Avignon. Température similaire demain dans le Lot-et-Garonne et en Dordogne.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Judith Vintraube du Figaro, l'entrepreneur Xavier Alberti, également le sociologue Nicolas Framont et Jonathan Boucher-Petersen de Libération. Alors une chose est sûre, Emmanuel Macron n'est pas paysagiste. Hein. Il nous affiche un de ses foutoirs dans le paysage politique français. On lui laisse les clés et voilà qui casse tout. Hein. Chez les Républicains, on ne sait plus où donner de la tête. Être avec Macron, être contre Macron ou faire un truc. Hein, voilà, tout simplement comme Serge Dassault qui en Essonne soutient Manuel Valls. Voilà, tout est normal. Et à gauche, là, ça ressemble un petit peu alors au Mordor du Seigneur des des anneaux. Dimanche soir, l'hécatombe fut telle que le Parti Socialiste est désormais le nom d'un désert. On parle de survie financière, alors que les survivants se battent pour obtenir des soutiens. Mais là encore, ça se bagarre. Certains socialistes préfèrent soutenir des candidats de la France insoumise plutôt que des membres de leur famille politique. Bref, il est très dur de s'y retrouver et ne comptez pas trop sur l'ex-ministre de l'Environnement pour vous aider, même si elle a fait son choix, Ségolène Royal.
Vous avez voté pour un candidat En Marche ou pour un candidat socialiste ?
Pour un candidat En Marche.
Pour un candidat En Marche ?
Oui, absolument.
Pourquoi pour un candidat En Marche ?
Parce que c'était une bonne candidate. J'ai voté dans ma circonscription des Deux-Sèvres. Oui. C'était une bonne candidate. Donc j'ai voté pour elle, oui.
À la présidentielle, vous avez voté pour Emmanuel Macron ?
Oui, mais enfin, c'est pas le sujet.
Voilà, Ségolène Royal, ce matin sur BFM, a noté que dans la circonscription de Ségolène Royal, c'était Delphine Bateau, donc du PS. Jonathan Boucher-Petersen, là, on voit qu'entre socialistes, ceux qui votent Macron, ceux qui votent France Insoumise, il y a une consigne de vote normalement du PS, c'est la réciprocité avec la France insoumise. Là, on voit que rien n'est respecté en fait. Du tout.
Oui, rien n'est respecté. C'est les soubresauts. Parce que le plus important, c'est quand même la claque la perspective d'avoir un groupe famélique. Après, il y a un moment de clarification qui couvre depuis tellement longtemps que je ne sais pas si c'est vertueux, mais il était temps presque que les choses se clarifient. Des gens qui, c'est vrai pour la droite comme pour la gauche, d'ailleurs, des gens qui n'ont plus du tout envie de cohabiter ensemble, d'ailleurs prennent leur clic et leur claque. Après, qui garde l'appart, c'est tout.
C'est un problème de logiciel pour vous, ça veut dire que c'est une réflexion qui n'a pas été faite depuis longtemps et aujourd'hui il le paye en fait.
Ça fait longtemps, mais on le décrit, après on va revenir au fait que la primaire a pu accélérer ça, mais l'idée que les partis sont d'abord des machines électorales qui préparent les élections, qui investissent, qui gèrent la cohabitation de ces identités, qui ont fait carrière dans la politique, enfin, de plus en plus c'était ça. Et le candidat qui a fait le pari de remettre les intellectuels au cœur, il fait 6%. Donc c'est vrai Benoît Hamon, donc c'est ça, tout ça ne suffit pas à résumer sa campagne et son échec, mais clairement on est dans autre chose qui se construit. On entend des Mathias Fekel. Alors, le problème, c'est que tous ceux qui, à gauche, en tout cas pour ce qu'on connaît un peu mieux à Libération, avaient prévu d'être les fers de lance de la reconstruction, ont été ciblés de façon assez professionnelle par En Marche pour les taper. En revanche, il y a au-dessus de 60 ans, il y a une prime. Daniel Vaillant a failli en profiter à Paris. Ouais. Stéphane Le Foll a pu en profiter. Et on se rend compte que les survivants, ils sont très macro-compatibles. Donc,
Nicolas Framont, finalement, un choc. On va dire salvateur, finalement, presque, ou pas,
un choc de clarification. Ça faisait un moment que le label gauche, par exemple, n'avait plus qu'une très vague signification politicienne, et qu'en réalité, au sein de ce bloc, vous aviez des positions qui n'avaient rien à voir. Une position convertie au libéralisme depuis un certain nombre de temps, qui s'est retrouvée ensuite, logiquement, chez En Marche. Et puis ensuite, vous avez la position qui a émergé autour de la France insoumise, qui fonctionne sur le cœur historique de la gauche, c'est-à-dire un vote de classe, et c'est ce qu'on a vu dans le vote de la France insoumise, et une sensibilité forte au système économique et aux inégalités sociales. Et donc, maintenant que ce bloc a émergé d'un côté et que de l'autre, le bloc libéral s'est détaché, on a au milieu ce qui reste du Parti Socialiste et qui ne sait plus trop, et peut-être même qu'on a des gens qui ne savent plus depuis le temps qu'ils pratiquent une gestion politicienne de leur avenir politique, peut-être qu'ils ne savent plus vraiment ce qu'ils en pensent en définitive.
Xavier Alberti, en effet, il y a cette réflexion que vont avoir les partis traditionnels, Parti Socialiste et les Républicains. Mais après aussi, on voit bien que là, on est dans l'heure des règlements de compte. Clairement, quand on voit par exemple Benoît Hamon qui appelle à voter France Insoumise contre Manuel Valls, on sent qu'il y a des choses qui se règlent en ce moment, quoi.
Oui, enfin, à l'ancienne. Ouais. C'est les derniers soubresauts d'un modèle agonisant. Donc ça se termine comme ça a vécu finalement. Je pense qu'il y a effectivement une clarification. Il y a surtout deux. Moi, je le vois avec mon regard de chef d'entreprise. Ouais. Il y a deux entreprises en faillite parce qu'elles ont été incapables de lire l'évolution du marché. C'est le marché de l'opinion, c'est le marché politique. Ils ont été incapables de lire ce qui se passait dans l'opinion et ce qu'a fait Emmanuel Macron et ce qu'a fait En Marche, c'est avoir une lecture parfaite de cette évolution-là et de ce que les citoyens, à un moment donné, voulaient se réemparer de la chose publique. Et c'est ce qui se passe. Alors, avec violence, parce qu'effectivement, ça a duré, ça fait longtemps que ça couve. Et donc, ça arrive avec beaucoup de violence.
Pour vous, ça couvait également depuis longtemps, Julie
Dantrobe ? Oui, mais pas la même chose. Ce qui s'est passé là, c'est quand même la sanction de l'échec, que ce soit pour la gauche au pouvoir ou pour la droite au pouvoir. Elle savait très bien ce que les Français attendaient. Les Français attendaient de leurs gouvernants, qu'ils soient de gauche ou de droite, qu'ils luttent contre le chômage, qu'ils fassent reculer le chômage. Ni l'une ni l'autre ne l'ont fait. Ils sont sanctionnés. donner. Après,
y a pas que ça,
être plus ou moins sympa, avoir un langage qui colle plus ou moins aux aspirations
des
Français.
Il y a des usages.
Oui, non, mais
ce dont on parlait précédemment, c'est le problème des usages, pas que le problème des résultats.
Le cœur, enfin, pour moi, le moteur de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est l'échec des autres. Et l'échec des autres sur un seul front, le front du chômage. Une fois qu'on a dit ça, à mon avis, on a dit l'essentiel.
C'est tout l'enjeu de dire si c'est un symptôme ou un remède. Enfin, pour ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien la maladie, comme vous dites, les soubresauts. Mais il a tout approuvé pour montrer qu'il a un remède. Parce que les recettes qui sont sur la table, pour l'instant, on n'est pas dans le neuf, on n'est pas dans le nouveau paradigme, on n'est pas dans la nouvelle croissance, on n'est pas dans les nouveaux droits au travail. Voilà, pour l'instant, c'est assez typé, on va dire.
On va continuer à parler justement de cette gauche. On parlera également, bien sûr, de la droite et de cette société civile. Alors, mais qui est-elle vraiment? Eh bien, il y a un chercheur qui s'est penché, qu'il a analysé et disséqué. Il y a quelques surprises. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
C'est au Havre et nulle part ailleurs que vous passerez votre été. À l'occasion du 500e anniversaire de la ville, plasticiens, designers, graphistes, metteurs en scène, romanciers, graffeurs viendront sur les traces de Niemeyer et de Monet réinterpréter cette cité étonnante. Du 27 mai au 8 octobre, avec plus de 60 artistes invités, l'art envahit la ville et le Havre n'a pas fini de vous surprendre. Œuvres monumentales, expositions, concerts, un été au Havre, c'est la grande redécouverte. Renseignements sur unétéauhavre2017.fr.
Attention, attention. Corum est un placement immobilier, donc un placement à long terme qui n'est pas liquide immédiatement. Et évidemment, capital et revenus ne sont pas garantis. Toute la documentation est sur corum.fr. Voilà, c'est dit. Sinon, c'est quand même l'opportunité de placer votre argent dans l'immobilier à partir de 1060 euros, tout frais inclus, de toucher vos revenus tous les mois et d'investir dans toute la zone euro. Autre chose, la petite voix?
Rien, tout a été dit.
Bon, j'aime mieux ça.
Corum, l'immobilier sans l'immobilité. Corum.fr.
Corum, visa SCPI délivré par l'AMF, géré par Corum Asset Management.
France Info Météo, avec Gauthier, mobilier contemporain, made in France et garanti 10 ans. À découvrir dans nos magasins Gauthier et sur Gauthier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore très estival demain, ce sera la journée la plus chaude de la semaine, 10 à 16 degrés au nord le matin, 24 à 32 l'après-midi avec 25 à Deauville, 30 à Paris, Dijon, 32 à Tours. Dans le sud, déjà 16 à 22 degrés le matin, 30 à 36 pour l'après-midi, 32 degrés à Lyon, 33 à Bordeaux, 35 du côté d'Avignon, 36 pour Agen et Toulouse. On aura du soleil au nord de la Loire, des Landes à la Méditerranée aussi. Et puis entre les deux, un temps lourd avec quelques averses orageuses, plus nombreuses en début de journée de l'Auvergne vers le Jura et les Alpes. Elles marqueront une pause et puis reprendront de la vigueur l'après-midi. Des orages forts, de la grêle possible sur le Massif central, la région Rhône-Alpes. On aura des orages également sur les Pyrénées.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Julie Simule, bonsoir.
Bonsoir, le coup d'envoi dans une demi-heure au Stade de France du match amical des Bleus contre l'Angleterre. Match sous haute surveillance auquel vont assister Emmanuel Macron et Theresa May, la première ministre britannique. Match qui va débuter par un hommage aux victimes des attentats de Londres et de Manchester. Gaëlle Joly, vous êtes sur place pour France Info. Quelle est l'ambiance à 30 minutes du coup d'envoi?
Eh bien écoutez, c'est une atmosphère particulière ce soir au Stade de France contre l'Angleterre après les attentats de Manchester et de Londres. Une minute de silence va être observée et une fois n'est pas coutume, les hymnes nationaux vont être inversés. Les paroles seront retranscrites sur écran géant pour que tout le monde puisse chanter en même temps. Une façon de rendre hommage aux victimes, une façon aussi de remercier les Anglais qui juste après le 13 novembre avaient chanté en chœur la Marseillaise en français à Wembley avec ses t-shirts « Priez pour Paris ». Ce geste, personne ne l'a oublié ici parmi les supporters français à qui j'ai pu parler. J'ai croisé aussi quelques Anglais encore très marqués par les attentats chez eux et qui attendent ce soir ce moment avec émotion. Les joueurs entreront sur la pelouse du stade au rythme de la chanson du groupe de Manchester Oasis, Don't Look Back in Anger. Un match sous très haute surveillance puisque 1100 policiers ont été mobilisés, dont un détachement du RAID et des barrages filtrant avec fouilles au corps, palpations et contrôle d'identité bloquent tous les abords du Stade de France ce soir.
Gaëlle Joly en direct pour France Info. Un match à suivre donc dans une demi-heure sur notre antenne. Avant ce match, Theresa May et Emmanuel Macron se sont entretenus pendant un dîner à l'Élysée. Au menu des discussions, la lutte contre le terrorisme, et le président de la République vient d'annoncer le lancement d'un plan d'action antiterroriste en collaboration avec Londres. Theresa May, elle, a maintenu le calendrier prévu sur le Brexit. Elle promet ce soir que les négociations commenceront comme prévu la semaine prochaine. Les prix du lait ne sont pas à un niveau suffisant. Déclaration il y a quelques minutes de Jacques Mézard, le ministre de l'Agriculture, à la sortie de sa réunion avec les producteurs de lait. Le ministre qui promet que cette question sera traitée en priorité lors des prochains états généraux de l'alimentation. Les producteurs se sont mobilisés toute la journée pour réclamer une hausse des prix. Conséquence, plusieurs actions et plusieurs blocages encore ce soir devant une demi-douzaine de laiteries dans l'ouest de la France. Les salariés de l'équipementier automobile GME bloque de nouveau le site de leur usine de la Souterraine dans la Creuse. GMS en redressement judiciaire depuis le mois de décembre, 277 emplois menacés. Les salariés dénoncent, selon la CGT, la volonté évidente de l'État de bâcler leur dossier. 20h33 sur France Info, on retrouve Jean-Mathieu Pernin pour la suite des informés.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils sautillent de plaisir devant le chamboule-tout de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraube du Figaro, l'entrepreneur Xavier Alberti, le sociologue Nicolas Framont et Jonathan Boucher-Petersen de Libération. Juste avant le journal, nous étions en train de parler de cette gauche décapitée déjà dès le premier tour. On ne sait pas ce qui va se passer pour deuxième tour, mais Nicolas Framont... Du côté de Jean-Luc Mélenchon, alors Jean-Luc Mélenchon, on sait que la France Insoumise pourrait avoir quelques élus. Pourtant, ce n'est pas autant qu'il en espérait lui-même, puisque pour constituer un groupe, il serait presque obligé de s'associer au Parti communiste français. Est-ce que finalement, il a réussi à remplacer le PS comme il le souhaitait ?
Au niveau du score, il a eu un score supérieur aux législatives. La France Insoumise a fait mieux. Après, il faut voir qu'ils ont été très touchés par l'abstention, puisque ce sont les jeunes et les catégories populaires qui se sont vraiment massivement abstenus. Or, c'était son électorat. Donc, à partir de là, qu'auraient fait les abstentionnistes, on ne peut pas le savoir. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, son score à la présidentielle va avoir des conséquences sur le long terme, parce que ça le met en position de leader à gauche, avec un programme qui est déjà constitué, avec une équipe cohérente et qui n'est pas divisée. Et la question des députés, quelque part, elle va être secondaire, puisque de toute façon, vu la majorité que a La République En Marche, la marge de manœuvre de ces petits groupes ne va être que, en quelque sorte, médiatique. Donc évidemment qu'ils ont tout intérêt à en avoir, pour les moyens aussi que ça permet, mais je pense pas que ça soit quelque chose de déterminant pour l'avenir de la France Insoumise.
Jonathan Boucher-Petersen.
Non, mais je suis pas complètement d'accord sur le fait que le score de la présidentielle suffira à faire de Jean-Luc Mélenchon à l'alpha et l'oméga de la gauche de demain. Ça, parce qu'effectivement, il y a une équipe très soudée, mais moi j'en connais que trois, personnellement, quand on dit les cadres du parti de gauche ou les cadres de la France insoumise ou les mêmes. Donc voilà, je sais qu'en tout cas la capacité à rassembler, j'ai pas l'impression que le front de gauche soit une réussite absolue. Et quand on a du mal à rassembler le voisin, on se dit que de l'autre côté de la rue c'est encore plus compliqué. On voit là qu'il apporte son soutien à un certain nombre de députés PS frondeurs.
Voilà,
c'est assez ciblé. Oui. Donc pour ceux qui connaissent, Yann Gallu, Christian Paul, Régis Juvenico et autres.
Les gens qui avaient voté la motion de censure
Donc c'est l'idée aussi d'aller parler au-delà. Hein. C'est une problématique à laquelle a été confronté aussi Podemos. Ils se sont déchirés beaucoup là-dessus sur est-ce que je parle au mien? Ça, c'est le Mélenchon du soir du premier tour, et c'est pas très audible dans le pays. Il en a payé le prix depuis. Après, c'est 4 députés, 5 députés, 8 députés. Enfin, voilà, ça reste vraiment pas beaucoup quand on se fait fort de se substituer au PS. Mmh. Mélenchon, il a réussi son pari, c'est-à-dire il a réussi le résultat final d'un PS quasi exsangue, sauf qu'il en a eu les miettes et que c'est a priori Emmanuel Macron qui s'est gavé.
Rapidement, Nicolas Framont, parce que je voudrais qu'on
entende. Oui, mais au-delà de la question des personnes, etc., il y a la question de la clarification idéologique. Et je dirais que la France Insoumise a opéré une vraie nouvelle offre politique, et c'est ressenti parce que ça a recentré notamment le vote des classes populaires vers la gauche. Et ça, c'est un acquis durable sur le plan idéologique et peut-être pas sur le plan politicien.
Judith Vintraube.
Je trouve que Nicolas Framont a tout à fait raison de dire que peu importe à la limite le nombre de députés, on a abondamment ces derniers jours, enfin parler des limites du scrutin majoritaire à deux tours et de la non-représentativité et du problème que ça pose par rapport à la rue. Vous dites il y aura une fonction médiatique, j'aurais dit tribunicienne.
Mais il l'avait déjà.
Puisque vraisemblablement...
Bah, rien ne change donc.
À l'Assemblée.
Mais non.
À l'Assemblée.
Où on a un groupe et on peut parler ou pas.
Ce qui est une chambre d'écho tout à fait différente. Regardez, c'est intéressant de comparer ce qui se passe entre le PS français et le PS britannique, par exemple. Les Anglais ont eu successivement Tony Blair, qui en gros a fait sien l'héritage de Margaret Thatcher, a complètement libéralisé le parti travailliste anglais, et aujourd'hui, ils en sont, je ne parle pas des élus qui, eux, restent plutôt blairistes, mais en tout cas, la base du parti est totalement Jeremy Corbyn, qui est
plus à gauche, voilà.
L'équivalent de Mélenchon.
Oui, sauf que c'est le même parti.
Sauf que, exactement, c'est ce que j'allais dire. Sauf que tout ça se fait à l'intérieur du parti.
Donc c'est plus l'enjeu Valsamon.
Ou non, mais ça veut dire que le mouvement est possible, d'une part, et d'autre part, comme le PS français est en voie de disparition, de dislocation, même Jean-Christophe Cambadélis a dit le socialisme vivra, mais la maison socialiste est en train de mourir. Il l'a dit dans ces termes-là. Ça veut dire que Mélenchon a toutes ses chances.
Alors, justement, Xavier Alberti.
Il a son âge aussi.
Hier, voilà. Alors, hier, beaucoup d'ex-députés, vous voilà, attendez, s'il vous plaît. Beaucoup
d'ex-députés,
s'il vous plaît, je et députés socialistes de la gauche du PS ont imputé cette défaite à François Hollande, Manuel Valls. Vous le disiez tout à l'heure, le malaise, il est plus profond. Est-ce que finalement, on peut tout imputer comme ça à François Hollande et Manuel Valls?
Non, encore une fois, c'est dire on a échoué à cause du marché, ou on a échoué parce qu'on n'a pas été capable de lire une stratégie. C'est pas François Hollande et Manuel Valls, ils étaient sur un rail. Et ils ont respecté finalement le rail qui était celui du Parti Socialiste depuis une dizaine d'années. Et ils ont parfaitement suivi leur rail. Sauf que ce rail menait contre un mur. Le sujet qui va se poser aujourd'hui, c'est celui du leadership dans l'opposition, à gauche et à droite. Tout le jeu pour le PS, ça va être d'être en capacité de former un groupe. S'ils forment un groupe, il est probable qu'à l'Assemblée, ils auront le leadership de l'opposition et que Mélenchon n'arrivera pas à l'avoir. Moi, je crois pas que les partis, comme toute autre chose, disparaissent. Ils se transforment. Je suis pas d'accord sur le fait.
Pas devenir un parti.
Je suis pas d'accord sur le fait. Mais je pense que le PS disparaîtra pas. Voilà. Et je pense que idéologiquement, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, il y a des choses beaucoup plus intéressantes dans la base idéologique qu'a posée Hamon dans son programme que dans celle que posait Mélenchon dans le sien. Le problème, c'est qu'Hamon a été un mauvais candidat, alors qu'il n'avait pas un programme qui était médiocre.
Alors, Nicolas Framont.
Oui, mais ça, c'est une appréciation personnelle des qualités de leurs programmes respectifs. Moi, ce que je constate, c'est que le Parti Socialiste, après la présidentielle, a abandonné le programme de Benoît Hamon, tandis que la France Insoumise maintient son programme, maintient ses positions, les rend publics, les médiatise, et on n'est pas du tout dans le même cas. C'est-à-dire qu'on a un parti, d'un côté, qui ne sait plus quel est son programme, qui ne sait plus quel est son courant, qui est totalement divisé et illisible sur le plan idéologique, et un autre qui a, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, un programme qui est visible, qui a des axes forts.
Qu'un leader.
Attendez,
parce qu'il y a... Depuis sa défaite, qu'est-ce que vous avez entendu du programme de Mélenchon, à part que la loi travail, c'était une catastrophe?
Mais justement, sur la bataille de la loi travail,
mais formellement, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas parlé
de transformation écologique. Ce programme a été celui qui s'est le plus vendu en termes de livres politiques.
Oui, mais ça, c'est pas les indicateurs.
C'est pas très cher,
en fait. C'est un indicateur, ça permet à Nicolas Sarkozy de s'imaginer tous les espoirs, mais a priori,
non, mais
c'est pas le sujet.
Vous pouvez pas nier le fait qu'il existe des axes forts qui, jusqu'à présent, n'étaient plus du tout assumés par le Parti Socialiste, qui existent à nouveau dans notre offre politique et qui a suscité l'adhésion d'une partie de la population qui se tournait auparavant vers l'extrême droite.
Mais on peut tous constater que Jean-Luc Mélenchon a fait 19%, mais ce sera pas un scoop. Simplement, est-ce que ça suffit à en faire quelqu'un d'absolument central à gauche? Je pense que du côté de la jeune génération du PS, il y aura des gens qui vont porter un discours qui sera aussi audible.
Et voilà, ce paysage politique, on le disait. Alors un vrai foutoir. En tout cas, allez, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Emmanuel Macron annonce un plan d'action antiterroriste très concret avec Londres. Le président de la République dînait ce soir avec la première ministre britannique Theresa May, juste avant de partir avec elle au Stade de France pour assister au match amical France-Angleterre. Le chef de l'État précise simplement que l'une des mesures de ce plan d'action visera à supprimer les incitations à la haine et au terrorisme sur Internet. Le garde des Sceaux persiste et signe. François Bayrou accusé de pression par Radio France et recadré ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe sur France Info, affirme ce soir que chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, il le dira. Le patron du Modem s'est plaint la semaine dernière auprès de notre service investigation d'une enquête sur des soupçons d'emploi fictif au sein de son parti. Des centaines de dentistes dans la rue contre la réforme des tarifs, la réforme de leurs tarifs, des chirurgiens dentistes, des étudiants ou encore des prothésistes. Des cabinets fermés également aujourd'hui, notamment en Bretagne, entre 900 et 1000 manifestants à Rennes. La réforme imposée par le précédent gouvernement prévoit notamment un plafonnement des tarifs des prothèses à partir du 1er janvier 2018. Alerte à la pollution de l'air dans le sud-est de la France en raison des fortes chaleurs. Le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes de Haute-Provence sont concernés. Les limitations de vitesse pour les automobilistes restent les mêmes pour l'instant, mais les forces de l'ordre vont intensifier leurs contrôles. Les autorités rappellent que les feux à l'air libre sont interdits.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Et maintenant, une question qui mérite d'être posée, parce que ça sera peut-être la seule fois qu'elle sera d'actualité. Comment certains candidats étiquetés République En Marche Modem ont-ils fait pour perdre? Et oui, sur 526 candidats En Marche Modem, 19 ne se sont pas qualifiés pour le second tour. Vu l'ampleur de la vague, c'est un petit exploit. En plus, on a leur nom, donc c'est terrible. Hein. Et parmi eux, beaucoup font partie donc de la fameuse société civile vantée par Emmanuel Macron. Alors, il y a un directeur de recherche au CNRS, Luc Rouban, qui s'est justement penché sur ces candidats à la société civile. Il les a analysés, disséqués, observés, le plus souvent à l'état sauvage, et ses conclusions ne sont pas toujours flatteuses, en fait, pour le renouvellement. Alors, c'est sûr qu'il y a un rajeunissement certain, moyenne d'âge 47 ans, il y a une vraie parité, mais pas vraiment de novices en politique, et surtout, 23% appartiennent à la classe moyenne et 68% aux classes supérieures, de nouveaux visages qui n'effraient en rien le leader de la France insoumise, on en parlait, Jean-Luc Mélenchon.
Moi, ils me font pas peur, les 400 de Macron. C'est le contraire, je me pourlèche. Parce que je connais la vie parlementaire. 400 bisous qui arrivent, dont la plupart d'entre eux sont des CSP+, qui sont habitués à la vie triomphante et glorieuse, dont aucune espèce d'idée du Monaca qu'est la vie de député. Et en plus, ils vont avoir des serfils qui vont leur donner des ordres pour voter en cadence des textes.
Ouais. Et ben, c'est plutôt les Godillot, hein. C'est plutôt les députés Godillot qui vous font peur que les...
Mais je n'ai peur de rien.
Voilà, il n'a peur de rien, Jean-Luc Mélenchon, ce matin sur RTL. Xavier Alberti, on l'a vu avec cette étude, c'est assez intéressant quand on voit vraiment dans, en profondeur. Est-ce que c'est, on va vers une assemblée, comme on dit, CSP+ ?
Manifestement, quand on lit l'étude, c'est indéniable. Ouais. Il n'empêche que il y a des agriculteurs, il y a des professeurs, il y a des professions de santé.
Il y a beaucoup de professeurs.
Mais 80, je crois. Oui, mais le sujet, c'est le renouvellement des visages. Et l'entrée de la société civile. Alors après que ce soit des CSP+, des classes moyennes et pas des ouvriers, c'est pas vraiment un scoop.
Non, mais est-ce
on va
que
dire...
ça représente aussi, vous savez, la diversité? On l'a souvent reproché à l'Assemblée nationale, mais pas du tout représenté la France.
Je trouve ça extraordinaire qu'on fasse la fine bouche à ce point. Sauf à préférer l'hémicycle dans l'état où il était, où il est encore, on va dire, pour quelques heures. Mais on voit arriver une moyenne d'âge de 47 ans au lieu de 55. On va probablement,
en 97, c'était encore moins pour
ceux qui ont
un peu de
mémoire. On va probablement battre le record de présence des femmes à l'Assemblée largement, et on va se balader entre 40, au-delà de 40% de femmes, au-delà de 40%. Aujourd'hui, on est au maximum, on est à 24. Au-delà de 40%, enfin, c'est une vraie révolution. On va arriver des gens qui viennent de quelque part. Alors, pour Jean-Luc Mélenchon, quand on vient de quelque part, c'est qu'on est un lobby. Hein. Quand on a travaillé quelque part, on représente le lobby des boulangers, de l'assurance, des médecins. Il faut pas avoir de passé. Hein. Évidemment, quand on a toute sa vie passé... milité, non, pas milité, parce qu'en l'occurrence, pas que milité. C'est, effectivement, il connaît très très bien l'Assemblée nationale et le Sénat.
Et le Sénat,
Beaucoup le Sénat, oui.
Puisqu'il y a passé sa vie. Ouais. Donc forcément, il la connaît bien. Mais dans la société civile, il y a des gens qui ont dépassé. Moi, je trouve que c'est d'abord une promesse d'Emmanuel Macron candidat, qui est tenue et qui est parfaitement tenue. Qu'on puisse faire mieux en termes de représentativité, sûrement, et il faudra faire mieux la prochaine fois.
Nicolas Framont, est-ce que vous l'entendez finalement aujourd'hui? On est quand même, bien sûr, on peut reprocher des choses, mais est-ce qu'on est là dans l'ordre du symbole aussi? On avance parfois peut-être avec des symboles, et là le symbole, il est là, il est dans cette société civile qui, bien sûr, c'est du CSP+, mais on voit qu'il y en a certaines cases quand même cochées, quoi.
Alors, il y a une chose, pour moi, très positive, c'est la parité. Ça, c'est indéniable et c'est un énorme progrès en politique. Il faut quand même le saluer. Par contre, pour ce qui est de la société société civile, pour moi, c'est un label relativement vide de sens au regard de ce que les différentes études ont montré. D'ailleurs, beaucoup de journalistes, de sociologues ont fait le travail ces deux dernières semaines pour montrer que ce n'était pas tant des novices en politique. Et qu'est-ce qu'on entend par société civile ? Est-ce qu'on entend le peuple français ? Et là, on se rend compte que non. Vous vous rendez compte, dans cette étude, on se rend compte que dans les membres de cette fameuse société civile, on n'a que 0,4% d'ouvriers et d'employés. C'est une catégorie qui représente plus de la moitié de la population française. Donc vous voyez qu'on a un vrai manque de représentativité sociale. Et il se trouve que les représentants de la nation sont aussi censés alors les représenter socialement. Vous vous rendez compte que dans notre constitution, on a quand même un article qui stipule qu'aucune portion du peuple ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Quand vous avez une partie de la population supérieure qui occupe à elle seule près de 80%, comme ça va sans doute être le cas après cette élection, des bancs de l'Assemblée nationale, eh bien, on a une représentation tordue en faveur des classes supérieures.
Et ça ne veut pas dire qu'elles vont faire... Et dans les hémicycles précédents, c'était comment ?
Eh bien, si. Mais justement, non mais attendez, moi je ne dis pas que là-dessus, LREM a l'apanage de ce qui s'est passé. Dans la précédente mandature, on avait 81% de cadres. C'était extrêmement important également. Et ça explique aussi la désaffection par rapport à la politique, le fait que les gens ne s'y retrouvent pas, l'abstention, et donc cette chose-là empire. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est de plus en plus inquiétant. Il y a de plus en plus de déconnexion. Et puis ça peut créer aussi des effets de politique de classe, c'est-à-dire que quand vous faites partie d'une certaine portion de la population, vous êtes plus attentif aux intérêts de vos semblables, potentiellement, que ceux des ouvriers et des employés qui ne seront même pas présents sur les bancs de l'Assemblée.
Jonathan Boucher-Petersen, finalement, on le voit. Alors, bien sûr, il y a des choses, en effet, qui sont très positives. Et en effet, comme le disait Xavier Alberti, est-ce qu'on n'est pas dans une continuité, finalement, cette politique en permanence aussi, qui exclut, finalement, une certaine catégorie de la population?
Là, qui exclut, ça très clairement. Le vivier, il n'est pas exactement le même, quand même. Enfin, on peut évidemment prendre les 68% qui ont déjà activité. Souvent, c'est un élu local ou élu départemental, enfin, un début d'engagement.
222, ouais.
Il y en a quand même 30% qui n'ont jamais eu la moindre activité politique. Donc, je ne sais pas si c'est une vertu, hein, d'ailleurs, mais c'est une nouveauté. Après, ça on le verra. Moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est le procès en incompétence de la Chambre sortante. Comme m'agace énormément le procès en regarder la tête qu'ils avaient, ce sera forcément mieux. On peut citer des dizaines de députés qui sont des gens absolument vertueux, qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit partout, mais voilà.
Et qui se sont fait étendre.
Ils se sont fait étendre de façon absolument indifférenciée. Donc, il y a quelque chose d'assez injuste, évidemment, dans cette espèce de va-et-vient où c'est pas les cœurs de la vertu qui vont remplacer les ténèbres de la République. Hein. On est loin de là. Après, de fait, il faut que sur cette nouveauté, sur ces pratiques, il y a des us et coutumes de l'Assemblée qu'on connaît, qu'on a observé, qui étaient assez détestables. Voilà, comme toute communauté qui vit en vase clos et qui le vice finit par quand même être la règle dans bien des votes, dans bien des obstructions, dans bien des... Et ça éloigne les gens. Après, le côté financier, se lancer dans une campagne, ça coûte de l'argent. Législative, c'est 30 000 euros. Très clairement, les partis politiques, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi, et le PCF l'a fait pendant longtemps. Après, ça sert à faire parce que le parti est une structure, parce que le parti est une assurance financière, et on n'est pas obligé de faire le système Jeanne de Marine Le Pen qui prête à des trous hallucinants. Mais voilà, le parti, ça permet aussi à tous les Français potentiellement d'y aller.
C'est un des grands échecs des partis traditionnels que de ne plus...
Parce que ça s'est professionnalisé, ça s'est perdu.
Exactement. De ne plus permettre aux classes ouvrières, aux classes... d'accéder effectivement à la représentativité, ce qui était le cas dans les années 60, 70,
70. Alors, Gilles Vintraube, est-ce que pour vous, finalement, la rentrée en masse finalement de ces candidats de société civile, est-ce que ça change quelque chose ?
J'en sais rien. Parce que ce qui est valable pour Emmanuel Macron est valable pour les candidats qui seront élus dimanche, c'est-à-dire que leur principale qualité, c'est de ne pas être sortant. Le dégagisme à tous les étages est en train de franchir sa dernière étape, celle des législatives. Donc on ne connaît pas leur tête, on peut les créditer de ne pas avoir les mêmes pratiques que les gens qui le remplacent.
De connaître la vie.
Mais,
d'avoir été salarié, d'avoir créé des entreprises, d'avoir créé des emplois, d'avoir fait autre chose que d'avoir fait autre chose, d'avoir fait autre chose que de la politique.
Il y a encore pas mal de fonctionnaires.
Il y en a même qui ont ouvert des comptes au Cayman, c'est dire.
Société civile, donc créer des entreprises, un fonctionnaire ne crée pas d'entreprise en général.
Non, mais enfin, il y a quand même. On ne pouvait pas dire à la fois, il y a trop de chefs d'entreprise, mais non, il y a trop de fonctionnaires.
C'est vrai qu'il y a un équilibre au niveau du privé.
Vous m'avez entendu dire, il y a trop de chefs d'entreprise.
Ça, dites-le.
Non,
si j'ai dit Vintraube a dit ça, dites-le.
C'est historique. Non, donc, en fait, ils ont une qualité en creux, c'est d'être quelqu'un d'autre que la personne qui le remplace. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant.
Alors, on va continuer à en parler pourtant dans un instant. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
La porte de l'Union européenne reste grande ouverte à la Grande-Bretagne tant que la discussion sur le Brexit n'est pas achevée. Le président de la République invite la première ministre britannique à réfléchir encore un peu avant de quitter l'Union européenne, même s'il souhaite que les négociations commencent le plus vite possible. Emmanuel Macron dînait tout à l'heure avec Theresa May à l'Elysée. Le chef de l'État annonce également la mise en place d'un plan d'action avec Londres pour lutter contre le terrorisme. Le ministre de l'Agriculture reconnaît ce soir la légitimité de la demande des producteurs de lait à l'issue d'une réunion avec des représentants d'éleveurs. Jacques Mézard admet que les tarifs du lait ne sont pas à un niveau suffisant. Peut-être de quoi lever les blocages de plusieurs coopératives dans l'ouest de la France. Les producteurs de lait demandent une revalorisation des tarifs pour couvrir leurs frais de production. La CGT est reçue elle aujourd'hui au ministère du Travail suite des concertations sur la réforme du Code du Travail. Et à sa sortie du ministère, le syndicat a parlé d'un scénario catastrophe dans lequel le pire pourrait devenir réalité. Ce sont les mots du communiqué de l'organisation. C'est la fin des conventions collectives, la fin du contrat de travail, ajoute la CGT. Le mercato a débuté dans le championnat de Ligue 1. L'Olympique lyonnais confirme le transfert de l'international français Mathieu Valbuena au club turc de Fenerbahçe. Montant de la transaction, 1 500 000 euros, auxquels pourront s'ajouter des bonus d'1 million d'euros au maximum. Antoine Griezmann prolonge lui à l'Atlético Madrid pour un an de plus jusqu'en 2022.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette société-ci qui devrait rentrer donc en masse hein, dimanche prochain. Si on voit les scores affichés par certains candidats en marche dimanche dernier, on a beaucoup de dimanches en ce moment, hein, on a célébré les dimanches toute l'année. Justement, un groupe aussi fort, puisqu'on parle de 400 personnes avec des profils différents, des tendances différentes. Xavier Alberti, qu'est-ce qui les unit finalement ces gens-là? C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron ou tout simplement, c'est ça, c'est le message d'Emmanuel Macron qui les unit?
Alors si c'était simplement ça, je pense que ça fonctionnerait pas. Ce qui les unit, c'est une vision de ce pays, de la façon de le faire progresser, de l'envie de le faire, de le transformer. On sent bien aujourd'hui que le sujet de la réforme en tant que tel, il est totalement usé. C'est comment est-ce qu'on arrive à basculer dans le 21e siècle? Comment est-ce qu'on arrive à revoir un certain nombre de pratiques politiques? Et on arrive à faire basculer ce pays dans une nouvelle façon d'envisager la croissance, d'intégrer le progrès, et qu'il soit pas destructeur mais bien créateur de valeur. Donc c'est ça le progressisme. Mmh. Voilà. Alors il se trouve que dans ce pays il y a besoin d'incarner. Hein.
Ouais.
S'il n'y a pas d'incarnation, rien n'existe. Donc l'incarnation, elle s'est appelée Emmanuel Macron. Mais autour d'Emmanuel Macron, il y a un corpus. Il y a une vision de la France et une vision de l'Europe. Ça a été quand même le seul à porter une vision européenne enthousiaste à l'intérieur de cette campagne. Mmh. Il est en train de repositionner la France à l'intérieur du concert mondial, et c'est pas rien. Je connais un paquet de gens qui vivent à l'étranger ou qui voyagent beaucoup et qui disent qu'ils ont relevé le manteau depuis quelques semaines.
Alors, Nicolas Framont ?
Je sais pas, justement, dans ce que vous dites, je trouve qu'il y a des aspects un peu flous et je me demande si, par exemple, ce que vous dites implique la fin des conventions collectives.
Mais surtout qu'on entend ça, c'est pas Emmanuel Macron depuis le début.
Oui, mais c'est vrai. Et du coup, ça pose aussi des problèmes de cohérence de sa majorité. C'est-à-dire que, est-ce que tous les gens qui vont être dans sa majorité sont pour, par exemple, cette renégociation forte et assez violente du Code du travail en faveur, en défaveur des conventions collectives, parce que ça n'a pas été dit clairement par Emmanuel Macron, et pourtant ça va se faire. Donc il va falloir aussi faire œuvre de clarté.
Ça a été dit clairement.
On savait que potentiellement dans le contrat de travail, on allait pouvoir négocier les clauses de licenciement.
Ça n'a pas du tout été pointé à l'avance.
Il y a vraiment des surprises. Alors, moi, je me demande comment vont le vivre les députés d'entendre ces surprises. L'état d'urgence dans le droit commun, c'est une surprise. Ce n'était pas dans le petit programme fort bien agencé d'Emmanuel Macron.
Jonathan Boucher-Petersen, par contre, aussi la chose, on sait que les députés macronistes doivent signer un papier pour dire. Oui. Alors ça, justement, est-ce que c'est aussi pour s'éviter, c'est la leçon des frondeurs?
Non, mais c'est pas grand-chose. Oui, le papier, c'est pas grand-chose. On est plus dans la mise en scène de la fidélité qu'autre chose. Hein. C'est le serment, pas d'allégeance, mais c'est quelques lignes sur les grands thèmes principaux.
Mais normalement, ça se fait pas, ça.
Coup, c'est quand on est investi. Il y a déjà cette logique de martialité dans le groupe, ou en tout cas de caporalisme. Vous redemandez au groupe PS comment il a vécu le quinquennat. Globalement, ça ressemble assez au code de la politique classique. Mais sur la société civile, moi je pense que là le seul truc où ça interroge, et notamment sur la question du droit du travail, c'est que ça va passer par les ordonnances quand même.
Voilà.
Donc en gros, il va y avoir un vote d'habilitation
Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il en a besoin avec 400
symboliquement,
députés?
Symboliquement, ça va être bien sûr qu'il en a. Ordonnance. Il en a besoin pour aller vite, pour mettre en scène son action vibrillonnante et qui n'est entravée par rien. Bah, après, ça risque d'être quand même.
Il l'avait annoncé.
Oui, bien sûr qu'il l'avait annoncé. Après, il n'a pas annoncé le contenu de la réforme. C'est ça qui est compliqué.
Si, non, je vous assure. Globalement, le cœur de la réforme.
Regardez comment ils ont réagi quand on a publié à la Une de Libération le contenu de ce qu'ils vous prévoyaient de faire.
Annoncé, il faut
je vous assure que si c'était sur la table, ils n'auraient pas porté plainte comme ça.
Il faut une habilitation. Il faut un vote du Parlement pour pouvoir.
Alors, ce sera le premier vote d'un Parlement qui vient d'arriver, qui est globalement dans une logique de on avance, on sait qu'il n'y aura pas de blocage.
Alors, juste d'interrompre.
Cette histoire de code d'engagement que vous évoquiez, je trouve ça à la fois ridicule et pas anodin. Ridicule parce que c'est parfaitement redondant. Puis qu'est-ce qui se passe s'ils l'enfreignent? Ils sont déshonorés.
C'est jupitérien, donc la foudre peut tomber.
On se demande quelle est la punition. Et pas anodin parce qu'on voit très bien que La République En Marche, c'est En Marche du même pas. Et que, en tout cas, au début, aucune incartade ne sera tolérée. Et tous les signaux sont envoyés dans le même sens. C'est vraiment.
Il y a un principe de réalité, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron et l'équipe qui l'accompagne maintenant sont pas venus là pour refaire les mêmes erreurs que par le passé. Donc, il a dit ce qu'il ferait et il va faire ce qu'il avait dit. Alors, et donc, il demande d'avoir les moyens pour pouvoir le faire. Il y a deux sujets majeurs de frein par rapport à ça. Les premiers, ça va être l'administration. On sait la capacité de blocage de l'administration. Et le second, ça va être le rôle joué par les corps intermédiaires. C'est-à-dire, est-ce que les corps intermédiaires aujourd'hui sont capables de jouer le jeu de la transformation de ce pays ? Que la majorité présidentielle joue le jeu du président, je trouve que c'est quand même la moindre des choses, en tout cas sur les on va dire la première année, et que Emmanuel Macron fasse ce qu'il a dit, oui, c'est vrai que c'est révolutionnaire, mais ça correspond à ce qu'il est.
Ça doit se terminer. Les informés de France Info, merci Xavier Albertsi d'être passé ce soir, merci Nicolas Framont, je rappelle votre revue Frustration, voilà, avec Macron président pour les riches, la fête continue. Jonathan Boucher-Petersen, Libération. Alors,
la manchette est en train de se faire, mais je peux vous dire qu'on revient assez largement sur justement ce projet de réforme de droit du travail, on se rend compte que bizarrement, il n'avait pas tout dit dans Emmanuel Macron.
Gilles Vatraube.
Alors nous, on s'intéresse à la nouvelle vague de migrants africains qui va débarquer.
Voilà, trouvé dans le Figaro. Il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu et bonsoir à tous.
Pour le classico programme ce soir.
Alors on va surtout parler du match amical de France, du match amical de foot France-Angleterre, pas de France. Il débute dans quelques secondes au Stade de France. On sera en direct. Match en hommage aux victimes des attentats de Manchester et de Londres. Match important aussi pour les Bleus qui doivent montrer un meilleur visage juste avant leurs vacances. On va aussi évoquer l'arrivée à Nantes de l'entraîneur expérimenté italien Claudio Ranieri.
Le classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.